réponse.
Vas-y.
Toi la parole.
Bonjour, déjà merci d'être venu. Alors, avant de commencer à parler, juste, je préviens, j'ai tendance à parler des fois un peu vite. Et en plus, il y aura des mots qui sont originaires d'autres langues, l'espagnol et l'arabe notamment. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas compris quelque chose. Je n'ai pas de problème à répéter. Et ça ne me vexera pas. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, levez la main et dites-moi.
Qu'est-ce que tu as dit là?
Oui, les deux, mais vu que je risque de dire des choses un peu techniques, c'est peut-être bien que je reprenne plus lentement. Je vais essayer de parler le plus lentement possible, mais c'est un sujet qui est passionnant et je risque d'être passionné. Donc on va faire son tour. C'est ça, voilà. Vous n'arrivez pas, il n'y a pas de problème. Normalement, je tiens le temps prévu, donc ce sera quelques minutes en plus seulement, c'est pas grave. Avant aussi de s'en présenter, juste une petite avertissement sur le titre. Le mot tolérance, il est très critiqué dans les milieux historiens. Il est, et d'ailleurs, en faisant la communication du stress éthique sur Facebook, des éthiciens ont réagi en disant que c'était pas le bon terme. Ça se débat. Il y en a qui parlent de convivencia, il y en a qui parlent de coexistence. Alors, j'ai pris tolérance parce que c'est le mot que vous trouverez si vous cherchez les débats dans le grand public, en fait, simplement. Mais je reviendrai sur ce mot-là plus tard dans l'exposé de toute façon. Alors ensuite, donc je suis personnellement titulaire d'un master en histoire médiévale, mais mon sujet c'est pas du tout à l'Andalous, c'est le Montpellier et son consulat au Moyen-Âge, donc quelque chose qui est assez éloigné de ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc je tiens à préciser, je ne suis pas expert, donc je me base sur les travaux d'autres experts, et notamment ce qui m'a motivé à faire ce travail, c'est un article d'Emmanuel Tissier du Ménil, dans l'histoire de mars 2019, l'histoire qui maintenant met ces articles en ligne et qui sont disponibles contre le fait de regarder une pub notamment. Donc si vous avez envie d'y accéder, c'est possible. Et personnellement, j'ai un compte histoire, donc si vraiment vous voulez parler de la pub, ça va pouvoir s'aider aussi. Mais bon. C'est un exercice, c'est pas le seul, bien évidemment, mais c'est celui qui vraiment pose la question. Et vous voyez qu'elle aussi reprend le mot tolérance, c'est vraiment pour reposer des questions. Et mars 2019, donc c'est l'actualité un peu brûlante. Ensuite, pour définir Al-Andalus, donc Al-Andalus, c'est un mot qu'on retrouve dans le terme Andalousie actuel, mais qui ne définit pas simplement ça en histoire. C'est le terme donné pour toute l'Espagne musulmane, avec tous ces changements de frontières au fur et à mesure des conquêtes et des pertes de territoire. Et il commence en gros en 711, avec le passage de Gibraltar et le début de la conquête par Tariq ibn Ziyad. Pour l'anecdote d'ailleurs, Gibraltar, c'est un mot qui renvoie à Tariq ibn Ziyad. C'est le refus de Tariq en fait.
Jibel al-Tariq.
Donc. C'est quelque chose qui reste dans le langage actuel et qui se termine en 1492, donc en fait ça dure pratiquement tout le Moyen-Âge, avec la prise de Grenade et la fin de la reconquête espagnole. Donc on parle de Reconquista, et là aussi c'est un terme qui a des tracteurs, pour des bonnes raisons. Et en tout cas, c'est la fin de la présence d'un pouvoir musulman en Espagne. Mais voilà, c'est vraiment cette période-là dont on parle, et donc un espace qui est changeant. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander, avec tous les débats qu'il y a, il y a vraiment deux visions très clivées, en fait, sur Al-Andalus et sur le régime des religions en Al-Andalus. C'est d'une part des gens qui sont des sources assez anciennes, qui défendent la vision d'une coexistence un peu idyllique en Al-Andalus, particulièrement, on le verra aussi en comparaison avec ce qui a suivi. Je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur l'édition espagnole, des choses comme ça. Et d'un autre côté, des gens qui expliquent que c'est entièrement faux et qu'en fait c'est un régime beaucoup plus grave. Donc ce que je vous propose, moi, c'est d'une part de revenir sur un peu l'histoire des débats, en gros l'historiographie du sujet pour le grand public, parce que. C'est un débat qui n'est pas forcément aussi présent chez les historiens, et on verra pourquoi. Puis sur les arguments actuels, et je ne vous donne pas le titre de la troisième partie, simplement parce que j'aimerais que vous analysiez ce que je vais vous dire, de la même manière qu'analyserait quelqu'un qui serait uniquement exposé aux arguments de polémique et pas aux arguments historiens. C'est la dernière partie, je vais venir dessus, et si je vous donne le titre, vous allez vous douter de où je viens en venir. Je vous propose d'essayer d'analyser ce qui se dit sans savoir exactement. Vous n'allez pas, malgré tout, je reviendrai longuement sur la dernière partie, donc il n'y aura pas de piège. Alors, pour revenir sur l'histoire des débats, en fait, c'est un débat qui est ancien, la question de la tolérance en Andalous. C'est un débat qui existe depuis les Lumières. Alors les Lumières, à l'époque, elles l'utilisent surtout pour critiquer l'Espagne de leur temps. Enfin, l'Espagne de leur temps, c'est une Espagne où l'Inquisition règne encore. C'est une Espagne qui, un siècle auparavant, a expulsé les maranes et les mauristes de son territoire, quand bien même ils étaient officiellement convertis. Ce qui n'est pas le cas des pays aux alentours, je veux dire, c'est vraiment particulier à la péninsule. Et c'est donc forcément une forte antithèse de ce que les Lumières prônent en termes d'ouverture religieuse, de tolérance, au sens des Lumières. Et du coup, c'est vraiment l'idée qui est en crédit de l'Église. En fait, ce qu'ils disent en gros, c'est que même à l'Andalous était plus tolérante que l'Espagne actuelle. Et ce qui est assez révélateur, et c'est ce que dit Manuel Fitzgibbon, entre autres, c'est que c'est une histoire de l'Andalous où les musulmans sont présents qu'après la conquête. En fait, on ne parle jamais réellement d'Andalous dans cette histoire-là. On en parle que pour dire, à l'époque, il y avait une coexistence, et maintenant, les musulmans sont victimes de l'Église. Mais en fait, les musulmans, avant d'être des mauristes victimes, n'existent presque pas dans cette vision des choses. Alors que c'est ce qui est assez étonnant vu le sujet. Et en fait, ça va directement influencer les premières études orientales qui, elles, vont voir les sources arabes, qui vont reprendre ça. Alors je vous cite Reinhard Dozy, qui est un arabisant du XIXe siècle, qui a écrit des dictionnaires qui, d'après Emmanuel Fitzgibbon, encore, parce que je ne suis pas compétent en arabe, sont encore très bons aujourd'hui. Donc quelqu'un qui a fait un vrai travail, et qui est assez étonnant dans le sens où il reprend cette vision d'une grande tolérance et quelque chose de très ouvert, tout en après égrenant les moments où cette tolérance n'a pas été respectée, mais en expliquant que c'était l'exception de toute la règle et tout ça. Donc c'est déjà des choses assez intéressantes. Et je trouve que d'assez plus nuancé, on verra que les débats actuels, souvent, c'est assez étonnant. Et enfin, la dernière source du mythe au XIXe siècle, on va dire, sur le XXe siècle plutôt, c'est l'idée d'un âge d'or pour le judaïsme. Et là, c'est encore les Lumières qui reprennent, puisque c'est en fait les Lumières allemandes et la Haganah, les Lumières ashkénazes, donc juives allemandes, qui vont forger l'idée que Al-Andalus était une période d'âge d'or pour le judaïsme en Espagne. Et donc qui était une période de grande expansion commerciale, expansion culturelle, et que c'était entre autres dû à l'ouverture religieuse. Forcément, vous imaginez bien qu'il y a aussi une mission politique là-dedans, dans l'Europe du XVIIIe et du XIXe siècle, hein, où c'est pas si évident de ça d'accepter la présence des Juifs. Et c'est une idée qui va vraiment avoir une certaine importance, et qui en plus, pour le coup, est difficilement niable, au moins en partie, dans le sens où les Juifs existaient en Al-Andalus, ils avaient, alors avec des changements qu'on verra, mais ils avaient droit de cité, ce qui n'existe plus à partir du moment de la conquête chrétienne, où d'abord on va les forcer à se convertir ou à partir, et puis après on va quand même les faire partir, en fait. Donc au final, on peut pas nier cet aspect. Après, parler d'âge d'or, là encore, on verra quelle nuance, mais c'était vraiment cette idée-là. Alors c'est aussi un débat qui est très vif en Espagne, et je pense que c'est assez logique. Déjà, pour la même raison que ce qu'on a en fait ailleurs, c'est-à-dire que le débat sur la place de l'Église, il est présent en Espagne, il est même très vivace, puisqu'on a d'un côté une droite catholique et opposée à la République pendant tout le XIXe et le XXe siècle, qui va défendre la vision que la reconquête, la reconquista, c'est ce qui a forgé l'Espagne, c'est un moment important et c'est un moment positif. Et de l'autre côté, une vision plus issue des Lumières, donc, et qui a donné en partie la gauche espagnole, que ce soit la gauche républicaine, la gauche communiste ou la gauche anarchiste, qui, elle, pour le coup, combat cette place de l'Église, pour des raisons différentes, bien sûr, et donc va évidemment avoir une vision beaucoup moins positive de la reconquête, et va adopter cette vision que la période d'Al-Andalus était très positive. Et en fait, ça va se changer en un débat sur ce que c'est l'Espagne, sur ce que l'Espagne a fondé, sur ce qui a fondé l'Espagne plutôt, et sur en fait ce qu'aurait dû être l'Espagne. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a ce débat-là même jusqu'à après la guerre civile espagnole de 1936, y compris dans le camp des opposés à Franco. On a en fait deux historiens qui sont majeurs dans le débat historique en Espagne. Enfin, le débat en tout cas grand public, parce qu'en réalité, ils sont un peu anciens pour le débat historique. En Espagne actuelle, on a côté Amerigo Castro, qui est quelqu'un qui va s'exiler, qui va publier au Mexique pendant la guerre de... Enfin, pendant la période de Franco, donc il a fait un opposant de gauche, qui est issu de l'histoire culturelle et qui va expliquer que c'est lui qui a forgé en fait le mot convivencia, le mot qui est un mot très positif, hein, c'est vraiment l'idée que les régions vivaient ensemble. Il va parler vraiment d'une de la chose qui est assez proche de ce qu'on appelle le multiculturalisme. Et du coup, il va vraiment être très, il est très repris à l'œuvre. Il va faire bondir d'autres historiens, dont Claudio Sanchez Albarnos, qui est aujourd'hui repris par les gens qui sont opposés à cette vision-là, qui est un ancien diplomate et député de la République, donc qui est aussi opposé à Franco, mais qui par contre est assez en raccord avec la vision de la droite sur l'histoire, qui lui va expliquer que l'Espagne musulmane a été un frein dans la construction espagnole, que la Reconquista ça a été un travail qui a trop occupé, qui a occupé les esprits, mais et du tout qui a empêché le projet commercial. Il va être notamment très violent envers la présence des Juifs en Espagne dans les années 50, hein, où il va expliquer qu'en fait les Juifs ont été un frein à la construction espagnole, qu'ils ont été usuriers et jamais investisseurs, qu'ils ont vécu sur la misère du peuple espagnol. C'est un discours quand même assez violent. Et il va même aller jusqu'à dire que ce qui a manqué à l'Espagne, c'est une expulsion plus précoce des Juifs. Et ils comparent ça à l'Angleterre où ça a été le cas. Donc on a un discours extrêmement violent. Et en fait, c'est un discours qu'on retrouve, qui va être hégémonique dans l'Espagne franquiste, qui est un discours en fait national-catholique. En gros, la nation espagnole, c'est le catholicisme. La reconquête, c'est ce qui est important. Ça va être idéalisé, ça va être repris même par Franco. Hein. Et dans une vision qui est très violente et qui est donc très vivante, ça va s'apaiser après la mort de Franco et avec le retour de la République, où on va plus parler de différences de culture, d'autres choses. Enfin, ça va revenir à vraiment un débat plus historique en fait au final, puisque d'un côté l'extrême droite n'aura pas autant de visibilité que sous Franco, et de l'autre côté la gauche va aussi avoir un discours peut-être un peu plus tendanciel. Mais en tout cas, c'est un débat qui n'est pas mort et qui l'a renaît depuis une vingtaine d'années, et notamment via ce livre. Alors là, je vous ai mis la version française, mais c'est une thèse américaine à la base. Donc pour remettre le contexte, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici. C'est Samuel Huntington, qui est un politologue américain, professeur à Harvard, et très proche de la droite dure américaine, qui au moins dans les années 90, lors de la chute des régimes communistes, va répondre à la vision qu'il veut sur la fin de l'histoire et qui veut que ce soit une période où c'est bon, les États-Unis ont gagné, en étant beaucoup plus négatif, en expliquant que en fait c'est la fin d'une parenthèse et que ça va revenir à ce qui est d'après lui le moteur de l'histoire depuis la naissance de l'islam au moins, qui est le choc de civilisation, de bloc de civilisation, donc d'où le terme, d'où ce qui est appelé, et un des éléments les plus structurants d'après lui bien évidemment, c'est le choc entre le bloc musulman, donc entendez l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et le bloc occidental chrétien, donc entendez l'Europe et l'Amérique du Nord, et aujourd'hui l'Australie aussi. Et c'est quelque chose qui va être très repris dans la droite, qui va avoir un énorme succès, étant qu'il l'a écrit peu de temps avant, ça a commencé à être connu peu de temps avant le 11 septembre. Donc forcément, il y a une résonance qui va être très forte. Qui a été multiples fois démonté, j'en ai déjà parlé, mais simplement, c'est une thèse qui prétend qu'il y a un seul moteur de l'histoire pendant aussi longtemps, c'est assez peu crédible. Il n'a pas fait du tout l'ennemi, il n'a pas du tout été repris par les historiens spécialistes des sujets dont il traite. Mais par contre, il a été très repris par toute la droite dure américaine et maintenant par la droite et l'extrême droite française. Et sa publication dans une collection qui s'appelle Histoire est quand même assez révélatrice, je trouve. Et du coup, il y a eu un problème, en quelque sorte, c'est-à-dire que parler d'une tolérance en Al-Andalus, ça fait pièce un peu aux civilisations. Parce que s'il y a eu un espace musulman, qui plus est, parce que dans sa thèse de Huntington, les musulmans sont agressifs, qui a assisté à la tolérance et qui a duré 7 siècles, ça bloque un peu la question de socialisation. Il y a deux choses qui vivent. Ce qui fait que ça a eu un certain essor peu de temps après. Là, le livre dont je vous présente, L'Andalousie arabe de Maria Rostamenoca, désolé, vous êtes pixelisé ce qui est écrit, je n'ai pas trouvé de meilleure image. C'est un livre qui est publié en 2001 aux États-Unis et en 2003 en France. Donc c'est pas explicitement une réponse, mais il y a un contexte à ça. Donc, Rostamenoca, c'est une spécialiste de la littérature romane, c'est aussi quelqu'un qui est issu des études culturelles, et qui, elle, va vraiment parler de monde multiculturel, en fait, pour l'Espagne, qui va avoir une vision assez angélique de l'Andalous, qui, à part ça, est très compétente dans ce qu'elle fait, hein, mais juste, c'est l'histoire de la littérature, c'est pas l'histoire de la société. Et là, pour le coup, il y a plein de défauts dans son livre, mais en tout cas, ce qu'elle défend, c'est vraiment une réponse en défendant le mythe de l'Espagne multiculturelle et de l'Andalous en mettant une période de grande tolérance. Malgré tout, ce qu'elle met, c'est pas non plus entièrement faux. Je vais en reparler après. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça fait un peu une réponse. Elle a vraiment été chef de file d'un courant. Alors, un courant minoritaire dans le milieu académique, un peu repris dans le milieu littéraire et dans d'autres milieux. Mais en tout cas, ça a été insupportable pour une frange de la droite dure espagnole. Et donc là, je vais vous parler un peu de celui qui est leur meneur aujourd'hui, Séraphine Fanjul, j'imagine. Je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais pu lu, donc j'ignore si ça se prononce vraiment à la Castillane ou s'il a d'autres origines. Mais bon. Et en tout cas, ce livre-là, il a été publié en 2017 en France, donc c'est récent, ça arrive en France un peu récemment. J'ai une édition qui s'appelle L'Artilleur, qui est notamment, qui, pour un peu avoir regardé, qui je pense qu'on peut dire qu'il est d'extrême droite, étant donné qu'elle publie notamment un livre à la gloire de Salvini, qu'elle a publié un des derniers livres de Philippot, et à part ça, qu'elle publie des livres climato-sceptiques aussi. C'est un autre sujet, mais c'est assez intéressant sur leur rigueur scientifique. Et ce livre-là, c'est un remaniement des deux livres qu'il a écrits en espagnol en 2001 et 2004, si je ne me trompe pas, donc vraiment pas longtemps après les livres de Rosa Menocha, donc c'est pour ça que je parle vraiment, il y a une sorte de réponse, où il prétend pas, lui, écrire une histoire d'Andalous, il le dédouane certaines choses, mais vraiment, il tire à boulet rouge ce qu'il appelle une invention. Il attaque très clairement à l'Andalous. Il prétend, lui, qu'à l'Andalous n'a laissé aucune trace dans l'Espagne actuelle. Cette tête d'histoire, ça laisse pas de trace. C'est déjà assez surprenant. Et il fait pas mal de comparaisons assez originales sur lesquelles je reviendrai. Et notamment, il explique que l'Andalous est un régime proche de l'apartheid. Il y a quand même un peu de différence, mais voilà. Et c'est vraiment. Et lui, il est très très mis en avant actuellement. Il a notamment rentré via ces travaux-là à l'Académie royale espagnole d'histoire, donc en 2012. Et si vous voulez savoir un peu politiquement comment il est, parce qu'il peut être publié à l'extrême droite en France en étant extrême droite, il est membre d'une association qui porte le nom, enfin le prénom, du fondateur de la France espagnole. Et il est aussi très proche de Vox depuis 2006. Donc Vox, pour rappel, c'est le parti nostalgique de Franco, qui actuellement monte en Espagne. Donc je pense qu'il est d'extrême droite. Et globalement, sa thèse, c'est que le mythe d'Andalous, c'est un truc forgé par le romantisme français et les Lumières. Parce qu'en fait, il y a deux choses qu'il déteste, c'est les Lumières et l'Islam, globalement.
Les Lumières et
l'Islam. Bah, l'Islam, c'est en s'y attendait un peu, quand même. Mais voilà, donc... Et pendant, il se dédouane totalement d'être dans la vision nationale catholique traditionnelle. Il n'utilise pratiquement jamais le mot reconquista dans son livre. Par contre, il parle de la libération nationale fait par le groupe catholique. Enfin, au final, il parle de reconquista, c'est-à-dire le mot, quoi. Et c'est bien. Mais bon, il ne le dit pas, donc il se dédouane un peu de tout ça. Alors, les arguments, j'ai un seul slide pour les arguments parce que je n'ai pas trouvé de manière de les afficher assez proprement. Alors déjà, on a une comparaison anachronique. En fait, j'ai trouvé la plus drôle, c'est une qui vient d'une philosophe française, Madame Fleury, dans un livre qui est publié chez les Puffs en 2004, qui parle de la question de la tolérance et qui est écrit en collaboration. Je pourrais vous passer un article, si vous voulez, le lien d'un article critique là-dessus, écrit par un autre philosophe et publié aux presses de l'Université de Lyon. Et en fait, la thèse du bouquin, globalement, c'est que la tolérance n'est pas possible en islam, et que, du coup, l'islam n'est pas celui dans la cité française. Déjà, c'est assez entré politiquement. Et elle, qui comme argument, comme chute de son argument sur la question des dhimmis, donc les protégés, pour rappel, hein, les religions du livre étaient protégées dans l'islam médiéval, en tout cas, mais avaient un statut subalterne de dhimmis, de protégés, et donc avaient quelques droits en moins, enfin, pas des droits en moins, et devaient payer un impôt en plus, qui est la jizya. Et elle, sa conclusion, c'est « Vous n'auriez pas voulu être chrétien en Andalous. » Alors, juste pour vous poser une question, si vous auriez voulu vivre dans un monde où, globalement, la médecine était celle de la médecine médiévale, où il y avait une forme de mentalité infantile. Enfin, c'est totalement absurde. On n'aurait pas voulu être chrétien au Moyen-Âge, aucun d'entre nous, je pense. Et où que ce soit. Et on n'a pas voulu être au Moyen-Âge, en fait. Et j'ai c'est ça. Et
tu parles bien de Cynthia Fleury, c'est ça?
C'est ça.
Oui, d'accord. Oui.
Donc, voilà. Donc, j'ai pas noté le titre de son livre, malheureusement. Je peux le retrouver, après si vous voulez. Hein, mais bon, voilà, c'était. Et c'est lui chez les pufs, malgré tout. Après, ça, j'en ai pas parlé trop dans la première partie, parce que j'ai pas l'impression que c'est un si grand écho de ça, son livre, de ce que j'ai pu en voir. C'est pas trop repris. Enfin, leur livre, parce qu'elle a publié ça en collaboration avec un autre philosophe. Mais voilà, c'était quelque chose d'assez étonnant. On a ça aussi chez Fanroul au nom de la déconstruction salvatrice, d'après lui, d'un mythe national, au profit d'un autre mythe, hein, je rappelle, hein, parce que lui, il défend totalement le mythe de la Reconquista comme étant un moment glorieux de liberté nationale. Quoi. Il s'inscrit lui-même, d'ailleurs, dans quelque chose qui est assez étonnant, c'est une idée que la nation espagnole est vissée depuis les Ibères, ce qui est assez beau au niveau d'anachronisme aussi, je trouve, et les Visigoths. C'est bon, ils ont été intégrés, c'était pas grave. Les Romains, bon, c'est pas grave non plus. Par contre, les musulmans, c'est très grave, hein, là, pour le coup. Pourquoi et donc, il commence à essayer d'apartheid. Là, il utilise, en fait, les sources juridiques de l'époque. Alors, je vais pas démonter toutes les différences qu'il y a dedans, parce que, honnêtement, il y en aurait pour une heure intérêt de ça. Mais juste, le racisme de l'apartheid n'existait pas au Moyen-Âge. Il n'y avait pas la théorisation biologisante des races à l'époque. Et d'autre part, on parle de personnes de régime qui ont 5 siècles de différence. Les comparaisons à 5 siècles de différence, elles sont de toute façon vouées à l'échec. Et en face, malgré tout, au niveau atronisme, on a aussi le multiculturalisme, parce qu'au final, le multiculturalisme, ou même d'autres valeurs mises dans Andalous, c'est des valeurs qui sont nées ultra récemment, en fait. Le multiculturalisme, on n'en parle pas au 19e siècle, ou très peu. Alors à l'Andalous, vous comprenez bien que ce n'était pas vraiment la préoccupation première des gouvernants. Donc là aussi, on a quelque chose de totalement anachronique qui, à lui, peut mieux passer, je pense, parce que c'est pas défendu comme étant une valeur de l'époque, c'est plus défendu comme étant une interprétation aujourd'hui de l'époque. Malgré tout, il y a des biais là-dedans qui sont assez problématiques et qui expliquent aussi que Van Roel puisse être très bien accepté en démontant ce mythe, parce qu'effectivement, ce mythe est démontable. Malgré ses outrances de Van Roel, ce qui le rend populaire, c'est qu'il a des arguments pour démonter certains auteurs. Bon, ce qui est révélateur aussi du travail de Van Roel, c'est qu'il démontre plus de romanciers d'historiens. Je pense que c'est aussi un peu problématique qu'on prétend parler d'un mythe. Le seul historien qui démonte méthodiquement, c'est Amerigo Castro, qui est mort il y a plus de 50 ans. Donc, c'est chose. Alors, je vous ai dit qu'il utilise une source valable. Alors, dans l'absolu, c'est vrai, il y a quand même un petit truc. D'un côté, Rosa Menocchial, elle n'utilise que des sources secondaires. Entendez, des sources qui ont déjà été traitées qui ne sont pas les sources des gens eux-mêmes. Donc, au final, elle vulgarise ce qui était déjà le mythe, en fait, plus qu'autre chose. Mais de l'autre côté, Van Roel, lui, il prend que des tests juridiques. Et c'est très bien, les tests juridiques, il y a une histoire du droit qui se fait. Et Van Roel est effectivement arabisant, donc il peut effectivement les travailler, pas de problème. Le truc, c'est que, de quoi qu'il en soit, c'est des tests qui disent la norme, pas la réalité. Or, si on veut parler d'une société et de ce qu'on va viser, c'est la réalité dont il faut parler. Par exemple, il utilise l'argument qu'il y a régulièrement des interdictions qui sont répétées pour les chrétiens et les juifs en Andalous. Bon, encore une fois, en enlevant tout ça de contexte en plus. Mais surtout, si elles sont répétées régulièrement, ce n'est pas forcément qu'elles sont importantes. Ça peut être, et c'est plutôt le cas en Andalous, qu'elles ne sont pas respectées en fait. Et que du coup, on les répète régulièrement. Et il y a une différence essentielle entre ce que dit le droit et ce qui est fait. Et en France actuelle encore, et dans toutes les sociétés. Et c'est pas parce qu'on répète quelque chose régulièrement que c'est ce qui se passe. Et donc, au final, on a un débat assez stérile, puisque aucun des deux prend en compte les sources de l'autre. Alors, ce serait facile de le faire, en plus. Parce que souvent, ces sources ne sont pas la même période, ne sont pas non plus des mêmes types de sources. Donc on pourrait faire une société, enfin essayer de défendre une société en faisant un mixte de ce qui se dit ou d'autres choses. Mais c'est pas le cas. Aucun des deux va prendre en compte les arguments de l'autre. Il y a vraiment un affrontement. Et c'est vraiment Van Roel actuellement et Sancian qui ont le vent en poupe. En tout cas en Espagne, mais aussi en France actuellement. Enfin, je pense que on peut dire que cette déconstruction, elle a plus de visibilité que le mythe aujourd'hui, en tout cas dans les livres qui sortent. Mais surtout, ce qu'il y a qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y a... Je n'ai pas parlé d'un seul historien spécialiste de l'Espagne dans tous ces débats musulmans. Et c'est pour une très bonne raison, c'est parce qu'en fait, les historiens ne veulent pas y aller dans ce débat. Dans son article, Emmanuel de Siménil, elle fait une longue introduction en expliquant pourquoi elle ne veut pas parler de ce débat, en fait. Et qu'elle va quand même en parler, parce qu'on en parle, et parce que le boulot de l'historien, c'est expliquer au grand public, pourquoi on ne parle pas de certains sujets, et de vulgariser un peu les recherches. Mais elle en parle très peu, en fait, de ce débat-là, même cet article-là, enfin, des réponses historiennes, simplement, parce que, et c'est là où je voulais en venir, en vous cachant un truc, la question n'a aucun sens, dès le début. Déjà, parler de tolérance, il faut remettre en perspective la création du concept de tolérance. Le concept de tolérance, le mot tolérance existe au Moyen-Âge, mais ça veut dire souffrir quelque chose. On tolère une maladie, on tolère une souffrance, on ne tolère pas quelqu'un. Ou alors, si on le tolère, c'est qu'il est extrêmement désagréable. Donc c'est déjà des choses assez étonnantes. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'idée d'intolérance, tolérance ou lactose, par exemple. Hein. C'est plutôt ça, le sens médiéval. Et en fait, le mot tolérance, il a commencé à venir dans cette politique au moment des guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Où, en fait, les idées de tolérance disent régulièrement on n'arrive pas à éradiquer l'autre. Alors, éradiquer, ça veut pas dire qu'ils sont tués, hein, ça veut dire qu'on est de force, ça veut dire plein de choses, mais enfin, en tout cas, on n'arrive pas à se débarrasser d'une hérésie comme on l'avait fait avant, c'est ce qu'on considérait comme une hérésie, bien évidemment. Donc, on va faire des lois qui s'adaptent. Et même cette tolérance-là, elle est très différente de la tolérance que nous, on entend aujourd'hui. Déjà parce que c'est un compromis, c'est pas un choix. Et ensuite, parce que c'est pas une régime d'égalité. Les protestants, dans les villes nantes, par exemple, ils ont des droits à part, ils ont des lois à part, ils ont des villes où ils ont le droit d'être et de prier, ils ont des villes où ils n'ont pas le droit d'être et de prier. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est choqué d'avoir une loi qui dirait tolérante en faisant ça. Mais c'est normal, parce que la théorie de tolérance d'aujourd'hui, c'est une reprise de ce concept-là qui est forgé par les Lumières, on y revient, et qui a en plus été transformé par différents moments, même les Lumières s'est terminé à un certain moment, et qui vont commencer à parler de tolérance au sens d'accepter les différences et de faire le choix de vivre une société qui n'est pas clivée sur ces questions-là. De la tolérance religieuse dont nous on parle aujourd'hui, elle n'était pas théorisée au Moyen-Âge, et ce n'est pas simplement un jeu sur les mots, c'est en fait simplement le fait que la société médiévale, c'est pas une société d'égalité, c'est une société d'ordre. Vous n'êtes pas traité pareil si vous êtes noble ou non noble, si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes originaire de telle ou telle région, si vous faites tel ou tel métier, et donc la religion, c'est juste un critère en plus. Et c'est normal, c'est un critère en plus, c'est jamais vu comme étant un problème. La question qui se pose, du coup, c'est pas celle de la tolérance, c'est celle de comment la société vit ensemble, en fait. Et c'est pour ça que, déjà, Castro est plus intéressant qu'il parle de convivencia, mais même convivencia, le mot est chargé, parce que c'est plutôt un mot positif. Et en fait, aujourd'hui, on parle plutôt de coexistence des religions, parce qu'effectivement, contrairement à d'autres périodes, par exemple la société française du Moyen-Âge, où les juifs ont été régulièrement expulsés, il y a, pendant la plupart du temps d'Al-Andalus, une coexistence de trois religions. Et ce sera aussi plus le cas à partir du moment de la fin de la reconquête et du règne des rois catholiques, où là, on impose la religion unique. Donc là, on parlait, c'est déjà rendre le débat plus intéressant, et c'est quelque chose qui tout de suite est plus juste. Et en fait, au final, c'est aussi chercher la question, parce que c'est à la fois amener dès le départ une valeur d'aujourd'hui sur le débat de l'époque, mais en plus, c'est donner la possibilité d'une critique très facile, parce que si on reprend ce que nous on appelle tolérance aujourd'hui, et on vérifie si ça se faisait en Andalous, la réponse est non. Mais la réponse est non pour toutes les sociétés médiévales, en fait. Donc ça n'a aucun sens de la poser.
Ceci dit, le mot même de tolérance, c'est pas acceptation, c'est juste tolérance.
Oui, mais aujourd'hui. Bien sûr, mais là, aujourd'hui, on parle de la tolérance, on pense à des valeurs qui sont contemporaines, malgré tout.
Oui, bien sûr.
Alors, après, ça n'empêche pas.
Tout de même acceptation.
Oui, et ça n'empêche pas, d'ailleurs, de replacer le mot. Et d'ailleurs, les critiques du mot tolérance ont été dès l'époque des Lumières, puisque un peu avant la Révolution française, on a des auteurs protestants qui disent qu'ils ne veulent pas la tolérance, ils veulent l'égalité.
Oui, voilà.
Mais malgré tout, aujourd'hui, quand on parle de tolérance, on ne pense pas à la même chose. Et de toute façon, encore une fois, même si on fait de tolérance ou d'acceptation, il n'existe pas à l'époque. C'est vraiment.
Oui, non, mais le concept.
Voilà. Alors, autre chose, je vous ai montré deux cartes, et deux cartes, par exemple, à l'Andalous. Donc, c'est juste pour vous montrer que, aussi, en 7 siècles, un territoire, ça change. Une politique, ça change. Et en l'occurrence, en 7 siècles, on a eu des empires, des éclatements aussi, ce qu'on appelle les taïfas, les plein de principautés, en fait, qui ont été. On a eu des régimes très différents. Donc là, je vous ai pris deux exemples, mais c'est que deux exemples, hein, bien évidemment. En vert, vous avez le califat de Cordoue. C'est en fait un califat omeyyade qui a existé au 10e et 11e siècle, qui avant était l'émirat de Cordoue, mais voilà. Et pour les gens, les omeyyades, c'est les califs qui ont succédé directement aux successeurs de Mahomet, pour faire très simple, et qui ont été renversés en 750 par les califs abbassides, et dont un, le seul survivant de la famille, parce que c'est une révolte sanglante, s'est réfugié en Espagne et a fondé une dynastie en Espagne. Et donc, eux, ils ont une prétention qui est très différente, fatigue déjà, et totalement issue de l'Empire arabe, qui est une prétention qui est plutôt impériale, et qui, du tout, va, dès le départ, se positionner sur une volonté de gérer le monde musulman, qui est un monde très, très, très disparate, et de aussi gérer, en fait, des choses différentes. Donc, c'est pas forcément l'impérialisme, ça permet pas forcément la tolérance, loin de là. Donc, il y a cette vision impériale telle qu'elle était présente à l'époque, et en plus, un territoire qui, quand même, faut le rappeler, était à grande majorité non musulmane. Hein. L'Espagne du 8e siècle, il n'y a aucun doute sur le fait que la plupart des conquis n'étaient pas musulmans. C'est quelque chose qui va amener un régime qui, effectivement, est assez ouvert, assez tolérant, avec des exceptions. Il y a des profanations de cathédrales à ce moment-là, il y a des révoltes réprimées dans le sang. Enfin, c'est pas non plus idyllique. Hein. De toute façon, je pense qu'aucune société n'est idyllique. Mais, en tout cas, ça explique déjà qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est plutôt ouvert, notamment aux Juifs. Et ce que vous avez à côté, c'est le califat almohade, qui lui se base sur des. Alors, le califat almohade, il se fonde au XIIe siècle, il se base sur des principes très différents, et il est notamment. Vous voyez, des califats qui sont originaires d'Afrique du Nord, qui sont berbères, ils sont appelés par les taïfas, donc ce qui a succédé après l'effondrement du califat de Cordoue, au califat de Cordoue, disons des petites principautés, pour répondre à un problème qui est, vous le voyez là, avec des territoires qui sont. Toléré, qui est en fait l'avancée de la reconquête chrétienne, et qui est en fait une réaction. Et eux, ils se positionnent comme étant plus aptes à y répondre, parce que plus respectueux d'un dogme strict, et parce que plus combatifs que ce qu'il y avait avant. Donc forcément, qu'avec un tel présupposé, il y a un peu moins d'ouverture à la tolérance religieuse. Et il y a aussi c'est aussi un truc qui est important, c'est que le contexte autour, politique autour, il joue aussi. À l'époque du califat de Cordoue, il y a un début de reconquête, mais il est très faible. Et on ne parle pas de conquista encore, la conquista c'est plus tard. Au moment des califats berbères, la reconquête, c'est une réalité. Ils sont régulièrement attaqués par des coalitions chrétiennes. Donc forcément, que la position que va avoir le pouvoir par rapport aux minorités religieuses, elle est différente. Et encore une fois, c'est pas simplement, c'est juste mettre en contexte. Et quelqu'un qui met bien ça en exergue, c'est Maïmonide. Maïmonide, c'est celui qu'on considère souvent comme le plus grand savant juif du Moyen-Âge. Il y a un institut qui porte son nom à Montpellier qui fait régulièrement des conférences. Et c'est quelqu'un qui a effectivement qui a vécu le passage l'arrivée du califat almohade et qui a vécu en fait le moment où les almohades ont fait cesser le statut de dhimmi. Et il a pu avoir son essor culturel dans l'Espagne musulmane, dans l'Andalous, en tant que juif, donc une tolérance qui existait, hein, qui a permis de voyager, d'avoir un essor culturel, de se cultiver, d'avoir un certain confort. Mais il est mort en Égypte parce qu'il a dû fuir à l'Andalous. Et il a fini comme étant médecin de Saladin, donc c'est que malgré tout, ce n'était pas dans tout le territoire musulman où on ne tolérait plus, c'était propre à un contexte. Mais malgré tout, c'est quelque chose, qu'il faut prendre dans le contexte. C'est qu'en fait, dans quelques décennies, la société peut changer, et c'est le cas aujourd'hui. Si on doit par exemple la France des Juifs, je pense que l'attitude de la population française par rapport aux Juifs était différente il y a 80 ans qu'aujourd'hui. Et c'est 80 ans, c'est pas 7 siècles. Donc là encore, il y a aussi un problème, c'est de vouloir généraliser. Et ce qui est assez intéressant, c'est que généralement, comme je vous l'ai dit, les sources utilisées ne sont pas exactement à la même époque. Et ce qui est, je pense, des fois un peu de la mauvaise foi, c'est que faut prendre en compte que le régime existe très longtemps encore. Et enfin, j'aimerais vous parler de ce fait qui est assez une ouverture un peu, c'est que peut-être on a un point de vue assez problématique. Comme je vous l'ai dit, déjà, à l'époque des Lumières, on ne prenait en compte vraiment que les sociétés chrétiennes. Là, ce que vous avez, c'est l'Empire arabe. Et ce que vous pouvez voir, c'est en fait, le monde musulman, c'est, l'Andalous, c'est finalement que la frontière occidentale d'un monde plus vaste. Et en fait, ce dont on présente comme étant typique de l'Andalous, on le trouve à Bagdad. On peut le trouver en Égypte. Et déjà, c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour nous, l'Espagne, c'est intuitivement européen. c'est notre espace à nous. Mais en fait, c'est biaisé. Même pas une reconquête, c'est biaisé. En quoi c'est une reconquête? En fait, c'est pas une conquête. C'est pas les mêmes populations qui les mêmes seigneurs qui reprennent le territoire. C'est pour parler de reprise. Mais c'est parce que c'est la vision qu'on a. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, on parle de restauration, ce qui est le discours de l'époque. Mais s'il n'y avait pas une victoire de la reconquête, au final de la reconquête, et qu'on était encore dans une Espagne musulmane, il est probable que le discours eût été très différent. Et en l'occurrence, en fait, le principe de Dhimmi, par exemple, c'est pas un principe qui est né en Al-Andalus. C'est un principe qui est né des conquêtes musulmanes, des premières conquêtes, qui n'étaient pas des conquêtes de conversion, mais bien des conquêtes d'expansion et d'enrichissement. Et ce qui se passe, en fait, quand on prend sur le long terme et qu'on prend en compte tout l'Empire arabe, si on se rend compte, par exemple, que la logique de la dhimmi et la jizya, elle s'inspire très clairement de ça. C'est qu'on ne veut pas convertir de force les populations qu'on soumet, on ne veut pas les intégrer de force à l'islam. Ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'elles ne révoltent pas, donc les dhimmi ont interdiction de porter les armes, et leur faire payer un impôt plus fort, d'où la jizya. C'est ça, en fait, qui va peut-être structurer les choses. Et en plus, il y a aussi une adaptation d'une religion qui n'est pas forcément plus ou moins tolérante qu'une autre, mais qui est juste, que, contrairement à, par exemple, au christianisme en Europe, elle s'installe dans un territoire où il y a déjà des gens qui croient au monothéisme, qui sont plus nombreux que les gens qui arrivent, dont les conversions vont être plus ou moins rapides et plus ou moins massives, alors que le christianisme, ça s'impose dans un territoire, à part dans lequel Palestine-Israël, ça s'impose dans un territoire qui est majoritairement païen. Donc au final, leur relation va être très différente. Et de la même manière que le comportement de l'Empire arabe est très différent envers les païens d'Afrique du Nord, par exemple, ou envers d'autres, qu'envers les chrétiens et les juifs. Et au final, c'est pas étonnant. Ce qui amène aussi une question, c'est pourquoi on compare toujours à l'Andalous à l'Europe, parce qu'on parle de nous, en fait. Et le problème actuellement qui se pose par l'Andalous, c'est la question qui est posée par Cynthia Fleury et par d'autres, c'est est-ce qu'il peut exister un islam tolérant. Et on est en plein dans tout ce qui se passe actuellement d'islamophobie, donc de peur de l'islam, de haine de l'islam dans certains secteurs politiques, aussi des craintes qui naissent avec l'autorité islamique actuelle. Et ça, c'est des sujets qui ne touchent pas l'Andalous, c'est totalement anachronique. Et si on devait comparer à une société chrétienne, ça serait plus intéressant de comparer à l'État latin d'Orient qui s'impose après les croisades, où là, il y a une coexistence entre les chrétiens, les juifs et les musulmans, où les chrétiens dominent, mais où il y a plus de musulmans et juifs que de chrétiens. Et où là, effectivement, il y a un comportement très différent. Et même cette comparaison-là est aussi douteuse, quand on dit que ça ne s'impose pas dans le même contexte, c'est pas les mêmes choses qui présupposent l'existence des territoires croisés que les territoires musulmans. Mais voilà, et c'est ça, en fait, que les travaux actuels des historiens mettent en lumière. C'est qu'actuellement, on ne travaille pas sur la tolérance en Andalous. On travaille sur la vie des mozarabes, des chrétiens, souvent andalous. On travaille sur ce qui fait l'identité andalouse, ce qui faisait une certaine union de la population. On travaille sur des choses comme ça. En fait, on prend le point de vue des gens dont on veut parler. Et je pense que c'est des choses importantes et qui n'existent pas dans ces balas. On a toujours notre point de vue à nous d'aujourd'hui. Et en plus, c'est un point de vue qui est très européocentré, ce qui est quand même un gros problème, mais qui s'explique vu les problématiques qu'il y a. Si on parle de civilisation, forcément, on va avoir une vision européocentrée, vu qu'on se voit comme soit attaqué. Mais c'est un point de vue qui est démonté par tous les historiens aujourd'hui. Et sur les thèses de fond de vous, si vous voulez, j'ai un article que je peux vous envoyer, vous passer. Il est sur clé USB actuellement, sur ma clé USB qui est dans l'ordinateur.
Je vois nos comptes rendus.
C'est ça. Donc voilà, et qui fait trois pages, c'est juste un commentaire par un historien de ce cas. Vous verrez tout ce qu'il y a comme présupposé d'extrême droite dans ces choses-là. Et qu'on peut supposer qu'ils sont directement issus du franquisme, en fait, et de périodes comme celle-ci. Et de l'autre côté, encore une fois, même la vision idyllique d'Al-Andalus, elle est aussi très problématique, c'est aussi européocentrée. C'est aussi une vision qui met Al-Andalus à part de toute la civilisation arabe, de la culture musulmane. Et c'est aussi une vision où, au final, les musulmans ont pratiquement pas le droit de parole, en fait. C'est la manière dont nous, on discours sur eux. Et d'ailleurs, c'est un débat qui, juste pour le lire, n'existe pas du tout chez d'autres historiens. C'est un débat qui est totalement occidental. Alors que l'histoire, c'est pas... Enfin, d'autres pays, on parle de l'histoire quand même un peu. Donc, pour conclure un peu rapidement, je sais pas si j'étais trop long ou pas.
Non, c'est bon, Sylvain.
On a, je pense, un biais qui est important, qui est ce qu'on appelle le biais historien. Alors, le biais historien, pour le dire rapidement, c'est le fait que quand on étudie l'histoire, par principe, on sait ce qui se passe après. C'est très dur d'étudier l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand sans savoir qu'il y aura une guerre mondiale après. Et on ne sait pas, c'est pas évident. On tue un archiduc autrichien, c'est pas évident qu'il aille voir des millions de morts quand même. C'est pareil, quand on étudie 1788, c'est impossible de ne pas penser à la prise de la Bastille et à la Révolution française. Pourtant, en 1788, personne n'y pensait. Et en l'occurrence, parler de Reconquista, parler de l'Andalousie comme une parenthèse et comme étant en fait quelque chose ancré entre les Visigoths et le Royaume d'Espagne, c'est déjà un biais d'historien. C'est vraiment savoir ce qui va se passer à la fin, donc la défaite finale de l'Andalousie, et savoir ce qui va arriver après, donc l'acquisition espagnole et l'intolérance religieuse en Espagne, donc des deux côtés, je parle de ça, pour juger une société qui doit juger par elle-même, en fait, et qui doit juger en essayant, parce qu'on ne peut jamais le faire totalement, de prendre le point de vue des gens de l'époque et pas le nôtre. Et en plus, et c'est là où je pense qu'il est extrêmement important, on a dans ces questions-là un biais idéologique important, c'est qu'en fait, c'est avant, on parlait d'Andalousie en fonction du débat sur la place de l'Église ou sur la place des Juifs dans la société, et aujourd'hui on en parle sur la place de l'islam et de la laïcité, et la question de la tolérance religieuse. Donc c'est des différences qui sont des fois subtiles. Mais c'est pas c'est un tout petit point de la société andalouse, si on parle, c'est une société entière. Et on n'en parle jamais pour elle-même. On n'essaie pas d'étudier elle-même, on essaie de répondre à nos questions via une société qui s'est effondrée, qui a disparu il y a quand même près de 6 siècles. Donc c'est quand même assez embêtant. Et je voudrais aussi dire, pour Emmanuel de Sillimini, ce qui est très dommage, c'est qu'on n'en parle justement parce qu'elle n'existe plus. Alors que la société musulmane à Bagdad, par exemple, qui a aussi a eu les mêmes lois, il y en a encore des musulmans qui ont le pouvoir à Bagdad. Mais bizarrement, on ne veut pas voir comment ça a évolué après. On fige un truc dans le temps, et en fait, le débat, c'est une essentialisation de l'islam, alors que l'islam est multiple, que l'Espagne et que l'islam, surtout, comme toutes les religions, évolue dans le temps et dans l'espace, évolue suivant qui lit le texte. Et par exemple... aujourd'hui, l'islam qui fait peur aux gens, c'est le salafisme. C'est une idée récente, le salafisme. Même, il prétend revenir à l'islam des anciens. Toute personne qui étudie l'islam des origines ne voit pas le salafisme. Donc, je pense que... Et il y a aussi un truc assez, je dirais, rigolo, c'est que les gens qui prétendent tomber le salafisme au nom de l'extrême droite et les salafistes ont une histoire assez proche sur l'islam des origines, quand même. Je vous remercie.